Bienvenue. Vous entrez dans la zone. Ta zone de confort, à ta zone de génie.
Quand tu laisses place à ta créativité, il y a mille manières d'être créatif.
J'écris, je lis.
Une porte ouverte
sur un monde enchanté.
Tu lis quoi, toi ?
Ce livre m'a transportée.
Tu lis quoi, toi ?
Quand elle écrit, c'est beau, quoi.
J'ai des piles à lire partout.
Des petits tas dans ma chambre,
des petits tas dans
ma bibliothèque, c'est...
Lire, c'est vivre en pleine lumière.
Tu lis quoi, toi ?
Je contemple, j'écris, je lis.
Et tu vois, quand tu oublies que t'es en train de lire des mots, ben voilà, c'est ça que je cherche quand j'ouvre un livre, finalement. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club de la Zone, le book club pour les créatifs qui aiment lire et raconter des histoires. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le sujet universel qui revient dans tous les livres ou presque, c'est l'amour. On en fait des poèmes, des tirades iconiques. Parfois il est à peine esquissé, au second plan, parfois il est au cœur de l'histoire, un personnage à part entière. Depuis quelques années, on cherche de plus en plus à comprendre l'amour, et les relations amoureuses plus spécifiquement. On veut en connaître les effets sur notre corps, notre cœur, notre cerveau. On veut en saisir l'évolution historique, sociologique, économique même. On veut déconstruire le couple, le disséquer, nous montrer la réalité. On nous a menti, le prince n'a rien de charmant, et après le mariage, tout commence, et la romance ne dure qu'un temps. N'empêche que moi, je suis un cliché sur pattes, et j'aime l'amour. Désolé, pas désolé. Je suis une amoureuse de l'amour. Et d'ailleurs, je suis tombée de haut quand j'ai capté qu'être en couple n'avait pas grand-chose à voir avec le cinéma. Comme d'habitude, je me suis réfugiée dans les livres. Et quand j'ai du mal à voir la réalité en face, les histoires font office de lucarne. Et c'est plus facile, parce qu'il y a quand même une part d'imaginaire. En vrai, avouons-le, l'amour, c'est hyper simple. Mais dès qu'on implique des humains, bah ça complique tout. Tout de suite, trois histoires où l'on se dit qu'on s'aime, mais c'est compliqué. On commence avec un coup de cœur, Seven Days in June, par Tia Williams. Seven Days in June, c'est l'histoire d'Eva, une mère célibataire et écrivaine à succès de livres érotiques, et de Shane, écrivain aussi talentueux que mystérieux, parce qu'il ne vient à aucun événement littéraire et n'accorde que très peu d'interviews aux journalistes, alors que c'est l'un des auteurs les plus connus de sa génération. Bref, un jour de juin, Shane et Eva se rencontrent par hasard à un événement littéraire, et cette rencontre ravive une flamme qu'ils pensaient avoir éteint chacun de leur côté il y a des années. Parce que oui, il y a 20 ans, alors qu'Eva et Shane étaient encore au lycée, ils ont passé 7 jours de juin ensemble, à vivre l'intensité de l'amour comme on ne peut la vivre que lorsqu'on est adolescent, que le sentiment amoureux nous dépasse complètement, et que l'on plonge dedans les yeux fermés, pour échapper à des traumas familiaux, à la précarité, à des problèmes de santé. Et cette idylle qu'ils ont vécue, personne n'est au courant. Ni l'agente littéraire qu'ils ont en commun, ni la fille d'Eva, ni leur lectorat et fans respectifs. Bien que depuis 20 ans, ils ne se soient jamais vraiment quittés, puisqu'ils s'écrivent l'un l'autre à travers les personnages de leurs romans. Et donc après 2 décennies de correspondance indirecte, de non-dit et de silence, Shane et Eva renouent le dialogue, en plein été à Brooklyn. Ils se retrouvent et c'est comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Sauf que, la dernière fois qu'ils se sont vus, Shane avait brisé le cœur d'Eva. Alors elle est bien décidée à lui dire adieu cette fois, et pour de bon. Sauf qu'évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Évidemment, tout est plus compliqué. Et surtout, la réalité de ce qu'il s'est vraiment passé 20 ans plus tôt n'est peut-être pas celle qu'Eva croit. Je sais que les résumés semblent un peu cheesy, mais je vous promets qu'il faut donner une chance à ce roman. La facilité avec laquelle on passe du rire aux larmes est incroyable dans cette histoire. Dès les premières pages, j'étais sincèrement pliée de rire, et c'est comme ça que je souhaiterais écrire, pour véhiculer des émotions aussi spontanées et authentiques que celles-ci. Seven Days in June, c'est drôle donc, c'est intelligent, parce que sans s'en rendre compte, On plonge dans des réflexions profondes à propos du poids des traumas générationnels et familiaux qui pèsent sur un couple. Eva est une mère célibataire qui a été elle-même élevée par une mère célibataire et elles ont eu une relation assez toxique parce que le rapport de sa mère aux hommes l'était tout autant, mesurant son estime dans le regard de tous ceux qui voulaient bien lui donner un peu d'attention. Eva souhaite donc imposer un modèle parental qui soit à l'opposé de celui de sa mère, mais qui a aussi son lot d'imperfections et a des répercussions sur sa fille, Audrey. Et au milieu de tout ça, au milieu de cette guérison, il y a Shane et le tourbillon d'émotions auquel il renvoie. Avec Shane, lorsqu'ils étaient adolescents, ces 7 jours ont semblé une éternité. Cet amour les a détruits d'une part parce qu'ils ne savaient pas comment aimer autrement. C'était juste 2 ados paumés et cassés qui se comprenaient dans leur douleur. Mais c'était aussi un amour salvateur, prometteur, qui ne leur demandait qu'à guérir. Et malgré la lourdeur de leur passé, le roman ne tombe jamais dans le pathos ou dans quelque chose de dur à lire. Au contraire, c'est vraiment lumineux, c'est touchant et c'est plein d'espoir. Et la fille d'Eva, Audrey, qui a environ 13 ans, participe justement beaucoup à alimenter l'humour qu'il y a dans ce livre. Parce qu'elle est la parfaite personnification de cette génération Z et de leur wokeness poussée à l'extrême face à des millennials parfois complètement dépassés par cette génération qui est née avec les réseaux sociaux et qui se sent obligée d'avoir une opinion sur tout. Le regard sarcastique et en même temps admiratif qu'Eva pose sur sa fille est vraiment attendrissant et exprimé avec tellement de réalisme qu'on ne peut qu'exploser de rire. C'est aussi un roman sur la vie d'une jeune femme afro-américaine de la classe supérieure vivant à New York. Il y a donc plein de références à la pop culture et à des situations que toute jeune femme ou jeune mère dans la trentaine pourrait vivre et qui ancrent le récit dans le réel, dans notre ère, ce 21e siècle qui va beaucoup trop vite et qu'on ne saisit pas toujours très bien. 7 Days in June, c'est un récit universel. L'histoire d'une femme qui a aimé, qui a eu mal et qui a voulu se fermer à toute relation pour se protéger. C'est une femme comme une autre qui essaie de naviguer tant bien que mal à travers les déboires de la vie, en se raccrochant à son travail, à l'écriture, à sa fille. C'est l'histoire d'une femme qui pensait avoir fermé la porte à l'amour mais qui n'a jamais cessé d'aimer, qui s'ouvre à nouveau peu à peu à sa sexualité. D'ailleurs, ces scènes sont torrides et très très bien décrites, à bon entendeur. Bref, c'est l'histoire de 2 ados devenus adultes, et qui peut-être donneront une seconde chance à ces 7 jours de juin. D'ailleurs, l'autrice, Tia Williams, a eu l'idée de l'histoire lorsqu'elle a regardé le film Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio, et qu'elle s'est imaginé ce qu'il se serait passé si les 2 amants ne mouraient pas à la fin. Elle voulait créer une histoire de black love iconique, sensuelle, torride, profonde et immuable. Et à la fin, j'ai serré longtemps le livre contre ma poitrine, parce que pour moi, elle a complètement réussi. Amour croisé. Vous en avez peut-être sûrement, je l'espère, déjà entendu parler. C'est un roman graphique, une BD, écrite par Laura Nsafou et illustrée par Camélia Blandeau. Cette BD m'a accompagnée lors d'une après-midi anormalement caniculaire du mois de juin à Montréal. L'histoire est celle de Hyde et Yari, qui se rencontrent lors d'une soirée tout ce qu'il y a de plus banal et qui tombent amoureux l'un de l'autre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que Hyde et Yari n'ont pas la même vision du couple et des relations amoureuses. Hyde est polyamoureux, Yari non. Yari est réaliste, elle sait qu'elle ne pourra pas faire fi de ce que Hyde lui donnera à cause de la jalousie, du manque, de la non-exclusivité de cette relation. Mais Yari est comme moi, une rêveuse qui ne peut pas s'empêcher d'aimer. J'ai adoré cette BD pour plusieurs raisons. D'abord parce que je m'y suis vue, ainsi que mes amis et ma sœur. je veux dire littéralement vu. Le travail de colorimétrie reflète les différentes carnations des personnes noires. Il n'y a pas qu'un marron clair ou un marron foncé, et la couleur de peau de Yari, de sa famille, de ses amis, change aussi en fonction de la lumière dans la BD. Des nuances que je n'avais jamais vues avant et qui m'ont fait me sentir vue, tout simplement. Yari change aussi souvent de coiffure. Et ce que j'ai apprécié, c'est que ce n'était pas un sujet. Parce que oui, pour moi, comme pour beaucoup de femmes noires, changer de coiffure est juste une forme d'expression comme une autre. La facilité avec laquelle on peut jouer avec la versatilité de nos cheveux est quelque chose de normal. Ce n'est pas un événement. Et j'ai aimé la façon dont les dessins normalisaient tout cela. C'est la première fois que je me sentais aussi représentée dans une BD. Pour ça et pour la familiarité que j'ai retrouvée dans la dynamique familiale et amicale de Yari. Ensuite, et évidemment, j'ai adoré cette BD parce que c'est une histoire à propos de l'évolution du sentiment amoureux et de toutes ces montagnes russes, celles qui rendent les choses intenses, fades, compliquées. Les papillons dans le ventre et l'expérience de l'autre que l'on considère comme absolument génial les premiers temps de la relation. Et puis, plus on est ensemble, plus on voit l'autre. Et plus on voit l'autre, plus on voit ce que la romance nous cachait au début. Le fait que cet autre est justement autre, qu'il nous échappera toujours un peu. Jusqu'où l'on est capable de faire des compromis parce que l'on s'aime, à faire fi de nos valeurs incompatibles, de nos points de vue irréconciliables parce que l'on s'aime. Pour expliquer les origines d'Amour croisé, Laurent Safo écrit « Amour croisé n'est pas une histoire de polyamour, ni un essai, ni un manuel, ni une tentative de rendre ce que c'est. L'histoire qui est racontée reste celle d'Aïd et Yari, et elle vise à montrer leurs différends dans leur manière de relationner au sein d'une société où l'on entend souvent qu'il suffit d'aimer. » Et comme souvent avec Laura, ces mots sonnent vrai et juste. À travers l'histoire de Hyde et Yari, elle aborde plein d'autres sujets qui en font un véritable roman graphique à propos de l'amour. Au-delà de la jalousie, de la remise en question ou l'affirmation d'un besoin d'exclusivité en amour, Amour croisé parle du plaisir intime et sexuel avec une douceur et une véritable conscience de ce qu'est le plaisir féminin. Elle parle aussi, à travers les histoires des amis de Yari ou des relations de Hyde, de la douleur de devoir taire son amour par peur de perdre une amitié de longue date ou par peur de perdre la relation que l'on a déjà. D'accepter d'être avec le premier venu par manque d'estime et par peur de ne jamais être aimé. Elle aborde la pression constante de la société mais aussi de notre famille ou notre entourage à faire les choses selon les conventions sociales, les fameuses conventions sociales. Rencontrer quelqu'un, se marier, avoir des enfants et réaliser le conte de fées finalement. Amour croisé, c'est un peu le recueil de mes discussions tard dans la nuit ou autour d'un café toute une après-midi avec mes meilleures amies, avec mes sœurs, avec ma mère ou ma tante. C'est la somme des histoires d'amour complexes, pas linéaires, que l'on se confie les unes les autres, avec douleur, avec excitation, avec joie ou tristesse. Parce que c'est ça l'amour, celui qu'on ressent, celui qu'on vit, celui qu'on débriefe, qu'on dissèque, qu'on intellectualise, et celui dans lequel on tombe inexorablement. C'est aussi ce lien entre toutes qui fait qu'on ne cessera, je pense, jamais d'en parler, de le mettre en mots, d'en faire des histoires ou des BD. Si vous avez écouté le dernier épisode du Book Club, celui avec ma sœur, vous saviez que j'allais vous parler d'un coup de cœur qui m'a accompagnée durant le mois de janvier. Il s'agit de After I Do, de Taylor Jenkins Reid. Il était dans la liste du Book Club de Reese Witherspoon, un excellent book club d'ailleurs, et aussi dans les recommandations lecture de Jen Im, une créatrice de contenu dont j'apprécie beaucoup le travail. Alors en découvrant le synopsis, j'ai foncé.
Je l'ai acheté cet été et je ne l'ai lu que plus de 6 mois plus tard. Et waouh! Je pense que rien n'arrive par hasard et qu'un livre s'ouvre toujours au bon moment. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec ce roman. C'est l'histoire de Lauren et Ryan. Rien que leur prénom est typique. C'est une histoire typique, limite ennuyeuse tant elle est banale. Ils se rencontrent à l'université, puis se séduisent, puis tombent amoureux. Puis chacun entre dans la famille de l'autre. Ils partagent des souvenirs et se marient, achètent une maison et un chien. Et après ? Eh bien après, l'amour s'effrite peu à peu. Le quotidien s'installe et se teinte de ressentiments. De choses qu'on finit par ne plus supporter du tout chez celui ou celle à qui on avait pourtant dit oui. Parce qu'après 11 ans de vie commune, Ryan et Lauren ne sont plus les mêmes personnes, n'aiment plus les mêmes choses. On change et l'autre aussi. Et on finit par se demander si on avance encore dans la même direction. Si ce couple que l'on forme a encore un sens. Si communiquer suffit, si on est obligé de tout faire pour se comprendre, si pardonner est forcément synonyme de continuer la vie à deux. Et donc c'est tous les questionnements par lesquels passent Ryan et Lauren avant de décider de passer 1 an séparés sans se contacter. 1 année entière pour réfléchir chacun de leur côté et voir ce qu'il reste de leur amour. Ce roman m'a tellement touchée que j'en ai pleuré. Et il faut savoir que je ne pleure quasiment jamais lorsque je lis un livre. C'est une histoire sur une relation amoureuse, oui, mais aussi sur la relation que l'on entretient avec soi-même, le fait de se perdre dans le couple et de réapprendre à se connaître. Une histoire sur le sentiment de liberté qui peut être étouffé par les compromis qu'on s'oblige soi-même à faire lorsqu'on est en couple. Taylor Jenkins Reid a, je pense, un don pour parler du quotidien. Vous savez, ces histoires a priori banales, mais qui ont le pouvoir de transposer ce qui se passe dans nos vies, de mettre le doigt sur des choses que l'on ressent et qu'on n'arrive pas forcément à exprimer. Et moi, ben, j'aime ces histoires du quotidien, qui en fait ne font que parler de chacun d'entre nous. Lauren n'a pas besoin de quitter son job et partir à l'autre bout du monde pour se trouver, pour se redécouvrir en dehors de son couple. D'ailleurs, Lauren n'a pas de grande passion ni d'aspiration. C'est vraiment une femme ordinaire qui vient de fêter ses 30 ans, avec une vie ordinaire et une famille ordinaire. Toute cette année, loin de son mari, elle n'a pas à découvrir des plaisirs simples, courir, partir en randonnée avec sa sœur et son chien, se rapprocher de son petit frère, de sa mère, de sa grand-mère. Peut-être vivre une nouvelle idylle, et prendre le temps de dialoguer avec son corps, de comprendre ce qu'il aime. Elle va se mettre à écrire aussi. Écrire tout ce qu'elle n'a jamais osé dire à son mari, dans des emails qu'elle n'enverra jamais. Et Ryan va faire de même de son côté. Lauren va traverser quelques grands événements qui vont bouleverser sa famille et faire avancer les récits. Mais ce que je veux dire, c'est que la banalité du temps qui passe se mêle parfaitement au récit du quotidien et des réflexions de Lauren sur son mariage et sur ce qu'est aimer. Et j'ai apprécié ça, que son changement de vie ne soit pas grandiose, mais que son introspection le soit. Parce que ça devient beaucoup plus probable et plus proche de ce que les gens peuvent traverser dans leur couple. J'avoue que j'aurais aimé que le livre soit plus long, que l'introspection de Lauren soit un peu plus complexe. J'aurais aimé en savoir plus sur ce qui se passe après cette année. Mais peut-être qu'il appartient au lecteur ou à la lectrice de l'imaginer. Finalement, l'amour prend plein de formes. On a beau essayer de le contenir, de le définir en s'imposant des tas de règles, plus j'avance et plus je me rends compte qu'il n'y en a pas vraiment. Ou qu'il y en a autant qu'il y a de relations. Et qu'il y en a autant qu'il y a de relations dans la relation. Toutes ces lectures des derniers mois ont ouvert beaucoup de pistes de réflexion qu'à mon tour je poserai peut-être un jour sur le papier. Jusqu'à quel point il faut faire des efforts? Est-ce que l'amour vient avec les efforts ou est-ce que c'est parce qu'il y a encore de l'amour entre nous que l'on fait des efforts?
Et d'ailleurs, ces efforts, est-ce que c'est un signe qu'on s'essouffle ou un signe d'endurance? Quelle est la différence entre ce que l'on veut et ce dont on a besoin? Et est-ce que ce que l'on veut est réaliste? Ça veut dire quoi, être prête? Et est-ce qu'on peut vraiment l'être? Ça signifie quoi d'être indulgente avec soi, vis-à-vis la douleur de ce que la personne qu'on aime nous renvoie? Vis-à-vis la culpabilité, l'échec? Est-ce qu'on aime trop? Est-ce que l'amour peut durer toute la vie? Comment définir la ligne entre continuer d'essayer ou abandonner? Et en même temps, pourquoi certains amours nous traversent, nous marquent et restent toute notre vie? Qu'est-ce qu'il y a de si puissant à aimer et être aimé? Voilà, c'est la fin de cet épisode du Book Club. Si vous avez déjà lu ces livres ou que je vous ai donné envie de les lire, rejoignez la conversation sur Instagram à la Zone Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, mon journal de bord, pour notamment en savoir plus sur moi, mes projets, ce que j'apprends chaque jour sur la créativité et avoir d'autres recommandations culturelles inédites. Le lien est dans les notes de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous et faites-moi part de vos plus belles lectures. Je suis toujours à la recherche de nouveaux mondes à découvrir. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.